Nous vous présentons dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre, La troisième époque de Violence et Crépuscule, L'élu. Production, mise en scène, Julien Jean-Pierre. Musique originale de L'élu, Lionel Morzetti. Elle sort de son immeuble, journaliste, photographe est un homme grand, mince, cheveux ébouriffés, blonds, visage gamin, habillé d'un costume décontracté gris. Il va vers elle. Oh, bonjour. Il prend ses bagages pour les mettre dans le taxi qui va le mener à l'aéroport. Dans le taxi, elle fait « Ouf, voilà, t'es fini !» Il lui demande « Qu'allez-vous faire maintenant ?» Il lui répond « Je sais pas, mais je vais changer de vie, peut-être chercher à me marier. Je rêve de vivre à la campagne. » Il lui dit « Vous croyez qu'on va vous laisser faire ce que vous voulez ?» Elle lui dit « Il le faudra bien. » Et vous, vous allez me suivre combien de temps? Il lui dit, jusqu'à la fin. Je vais vous suivre jusqu'à votre dernier instant. Comme le photographe de match qui est constamment à épier l'ancienne star du cinéma français. Puis, le taxi est arrivé à l'aéroport. Sort du taxi après avoir payé, pris leur bagage. Pour pas être ennuyée, elle a dit aux journalistes qu'elle partait que le lendemain. Et ils entrent dans l'aéroport. Ils sont entrés dans l'aéroport. Le photographe entre dans la halle, aller chercher son billet, allant à la douane, montrer des bagages. Les douaniers, ils n'ont pas regardé. mais le journaliste photographe a demandé d'ouvrir une valise et de le faire. Semblant de regarder dedans pour la photo. Puis elle est allée attendre son avion dans la salle d'attente. L'avion prendra les passagers dans une demi-heure. Se sont assis tous les deux l'un côté de l'autre et lui demandent « Et vous, qu'allez-vous faire en Amérique ?» Il lui dit « Moi, je n'irai pas en Amérique. » Il lui demande « Je croyais que vous alliez aller là-bas. » « Non, absolument pas. » « Alors, vous faites juste aller-retour ?» Il lui dit « Si l'on veut, oui. » Elle lui dit « Pour une personne qui voulait me suivre pas à pas, il lui dit, mais je vais vous suivre pas à pas, vous en faites pas, jusqu'à la dernière minute de votre vie, promis, juré. Tess, grande blonde, vient à eux et leur dit, je m'excuse de vous déranger, mais il faut que vous veniez de suite pour le départ. Carole regarde sa montre. Déjà ? La jeune femme lui dit, oui, c'est avancé. Ils se lèvent tous les deux et suivent l'hôtesse. Sortent de la salle d'attente. Et ils suivent l'hôtesse. Elle ouvre une porte marquée dessus service. Longe au couloir. Ouvre une porte qui donne à des escaliers. Ils descendent jusqu'au parking de l'aéroport. Une fois en bas, l'hôtesse dit « Bon, eh bien je crois que je vais vous laisser. » Et elle s'éloigne. Carole dit « Où allons-nous comme ça ?» Photographe lui dit « Des escaliers, on les descend. » Et ils descendent des escaliers. Encore. Carole dit « Mais pourquoi est-ce qu'on fait passer par là ?» Photographe lui dit, c'est par commodité, venez. Faut arriver en bas, c'est un parking. Elle dit, où on va comme ça? Il lui dit, venez. Elle demande, vous savez où on va? Il lui dit, oui. Elle lui demande, vous êtes déjà passé par là? Il lui dit, oui. Elle lui dit, c'est sinistre. Et pourquoi faire passer par là? Il lui dit, je vous l'ai déjà dit, c'est par commodité. Venez. Elle le suit. Il s'arrête devant une ambulance qui est en stationnement et lui dit, ne bougez plus, je vais vous faire votre dernière photo. Souriez. Elle range ses cheveux et son petit tailleur blanc. En Amérique, elle sait qu'il va faire plus chaud lorsqu'elle va débarquer. Elle demande après cet étranger, ça va comme ça? Il lui dit, parfait. Pour l'éternité. Souriez, ne bougez plus. Et il appuie sur l'appareil. Ah! Une lumière blanche est apparue. Elle est tombée à terre. En avant, raide morte. Le rayon laser a traversé le front et sorti par la nuque en quelques dixièmes de seconde. Et en même temps, l'appareil a pris la photo, ce qui fait que le photographe aura le dernier regard de Karine. Des hommes sortent de la camionnette, de l'ambulance camionnette, qui est l'ambulance camionnette de la clinique Riquin-Genetou. Ils mettent le corps dans l'ambulance. Le photographe part avec eux. La jeune fille qui a tué l'hôtesse est partie avant et s'est déshabillée dans le vestiaire. Personne n'a rien vu. Une jeune femme, blonde, en tailleur blanc, va prendre l'avion pour l'Amérique, au nom de Karine. Le tailleur blanc a été signalé par le photographe, et suggéré par le photographe à Karine. Comme ça, il sait à l'avenir comment elle allait être habillée. Elle prend l'avion au nom de Karine, accompagnée d'un homme en costume noir, grand et blond, et chargé de sa sécurité pour l'éloigner des opportuns. Cette Karine fait un voyage agréable en avion.
Vous êtes priés de redresser vos fauteuils, d'attacher vos ceintures et de ne plus fumer. Merci. Voulez-vous redresser votre siège, s'il vous plaît, merci.
Elle arrive à New York, où le père de la vraie Karine l'attend dans le hall. La fausse Karine ne veut pas être vue par son père, par le père plutôt, qui dirait à tous que ce n'est pas sa fille. Après avoir passé la douane et bien montré qui elle était, est arrivée en Amérique, va aux toilettes pour dames, et là, elle se met une perruque rousse, un tailleur bleu, pâle, et des chaussures plates. Puis, elle sort de l'aéroport, elle passera par l'Amérique du Sud pour rentrer en France. Elle prendra un avion au Chili. Le père attend sa fille à l'aéroport et avant de pouvoir venir, il demande. On lui dit qu'elle est bien arrivée, qu'elle est bien arrivée. Il la fait demander. Heure de recherche, il se dit qu'elle a dû quitter l'aéroport et elle s'en retourne chez lui en se disant qu'elle a dû rentrer. Arrivée à sa maison, elle n'y est pas et attend un jour, deux, une semaine. Puis prévient la police pour la disparition de sa fille. La police fait une enquête. Elle est bien arrivée à New York et a bien quitté l'aéroport. À tout hasard, ils téléphonent à Paris et on leur dit qu'elle est bien partie. On fait des recherches en Amérique, rien. Elle a bel et bien disparu. Le père de Karine est un diplomate, habite une petite ville près de New York, une petite ville, maison à l'américaine. Il est très inquiet. C'est un homme grand, fort, cheveux gris, yeux bleus. Costume gris. Et accepter que sa fille fasse tout ça parce que c'était soi-disant sans danger pour aider le pays, la CIA. Maintenant il est inquiet, très inquiet. Il a demandé des renseignements à la CIA. À la personne qui l'a convoqué, on lui dit que tout s'est bien passé, que si elle a disparu, qu'ils n'y sont pour rien, que peut-être que c'est pour une autre raison que celle-là. Il va dans les locaux de la CIA voir le responsable qui le reçoit dans son bureau. Un grand homme, brun, avec les yeux bleus vitrés. L'homme a un costume marine. Tous deux sont assis père est assis en face du bureau. L'homme lui dit: rien trouvé de spécial. Il est bien parti, sorti de l'aéroport, tout est en règle. Si elle a disparu, c'est qu'elle voulait peut-être changer de vie, être libre. Avec tout l'argent qu'on lui a donné, c'est un peu normal. Père lui dit: non, elle n'aurait pas agi comme ça. Je connais ma fille. Elle serait venue me le dire. Nous sommes comme les deux doigts de la main. Si il lui arrivait quelque chose, je fais un scandale et dis à tous ce que j'ai voulu qu'elle fasse. Directeur de la CIA lui dit: ne faites pas l'idiot. Vous savez très bien que si vous nous mettez en difficulté, nous vous mettons aussi en difficulté. On pourrait trouver le corps de votre femme, par exemple. Le père lui dit: mais elle n'est pas morte. Le directeur lui dit: c'est qu'un détail. On pourrait mettre le corps chez vous et dire que c'est vous qui l'avez tué. Et par mon terme avec votre femme. Non, tout le monde connaît vos scènes de jalousie. Le père lui dit: vous êtes des salauds. C'est vous qui avez tué ma fille. Et il sort du bureau. Mais avant de sortir, il demande: où est ma fille? Où est le corps de ma fille? Le directeur lui dit: nous ne le savons pas. Nous ne sommes pour rien sur sa disparition. L'homme ferme la porte derrière lui. Le corps de Karine a été amené à la clinique Jeune Touriquin, qu'il a découpé et récupéré les organes en bon état. Bien entendu, le cerveau qui lui a été touché a été entièrement mis en bouillie et déposé. La bouillie a été déposée dans des conserves pour chiens. Il ne reste plus rien de Karine. Faire en se disant qu'elle est partie se refaire une nouvelle vie avec une bonne somme. Le photographe a envoyé à Match la photo du départ de Karine. Ces photos ont fait le tour du monde et montrer qu'elle était bien partie. Et n'en a plus entendu parler du photographe ni de Karine. L'actualité est passée à autre chose. Les Américains n'ont pas réussi à déstabiliser le groupe de tout Ricain Franc-Blanc qui reste uni. Les jours passent. Gilbert a appris la disparition de Karine. Julien lui dit, c'est normal. Si elle était une fille payée pour faire ça, elle s'est évaporée pour passer à autre chose. Ils ont payé pour faire chanter les gens. Nathalie lui dit, tu t'es fait avoir comme un bleu. La prochaine fois, il faudra que tu fasses attention aux belles filles. Elle en voulait à ton fric. Gilbert lui dit, je n'ai jamais été séduit par elle. Et je ne t'ai pas trompé, je te le jure. Et puis cette fille était peut-être une amie de ta mère. Nathalie furieuse lui dit, ma mère n'aurait jamais fait une chose pareille. Et puis, c'était une femme pas sérieuse. Ma mère, elle est sérieuse. Elle n'aurait jamais fait ça. Elle me déteste, Nathalie lui dit. Elle est honnête. Gilbert lui demande. Mais pourquoi est-ce qu'elle me déteste? Pourquoi est-ce qu'elle m'en veut? Nathalie lui dit, je ne le sais pas. Gilbert lui dit, en tout cas, elle a dû être heureuse qu'il m'est arrivé une chose pareille. Nathalie hausse ses épaules. Dit à Maurice, tu vois cette histoire que ton fils n'était pas ton fils, c'est des mensonges. Maurice lui dit, peut-être, mais il n'y a aucune preuve. Carl lui dit, 6 mois, et ça doit te suffire. Judith dit à Harold dans son bureau, j'ai frôlé la crise à cause de cette histoire. Il faudra peut-être s'y surveiller un peu mieux Gilbert, l'empêcher de fréquenter des étrangers. Harold lui dit, et surtout que l'on ne s'approche pas trop de lui. Les jours passent.
formidable.
Ça, c'est merveilleux.
Ça, c'est formidable.
Ça, c'est merveilleux.
Ça, c'est formidable.
Les robots ménagers continuent à bien se vendre, malgré quelques petits inconvénients. Les gens sont satisfaits. On prépare aussi des mutants pour faire certains travaux. Mais là, ce sera long parce qu'il va falloir les former et tout faire pour qu'il n'y ait pas de danger.
C'est formidable.
C'est merveilleux.
C'est formidable.
Ça, c'est merveilleux.
Ça, c'est formidable.
Ça, c'est merveilleux.
Les produits alimentaires bio se vendent de plus en plus dans les supermarchés. Ils sont moins chers et plus beaux que les autres. Il y a bien entendu des petites choses à revoir, comme le goût. Un peu trop bicarbonaté. La chair est un peu trop ferme. Pour la saveur, on essaye, c'est des parfums concentrés. Et que l'on met dans un bain trempé. Pour les assouplir, on les met dans de l'acide et on les presse. Avec de l'ADN dedans, à la place du mica, sont en vente courante. Les essais pour la puce qui remplacera la carte universelle est concluant. On met une puce qui reçoit toutes les informations sur la personne. Elle se trouve sur le pouce de la personne, ou dans le pouce de la personne. Il suffit qu'elle mette son pouce sur l'écran ordinateur pour qu'on le sache son identité, son âge, nationalité, adresse, diplôme, entrée et sortie d'argent, ses situations de famille, etc., etc. Et comme cela, il n'y a plus de vol de cartes. Mais les agresseurs peuvent malheureusement faire une chose, c'est de couper le pouce de la personne qui a la puce et le mettre sur l'écran pour voler ses biens. Il y a une nouvelle race de voleurs, les coupeurs de pouces, avec des pinces à coupe-boulon. La personne que l'on a enlevé le pouce n'a qu'une seule chose à faire, c'est porter plainte ou une opposition à sa banque. On lui remettra une autre puce sur l'autre pouce ou un autre doigt. Certains voleurs se sont fait avoir en volant des pouces qui n'avaient rien eu parce qu'ils se sont trompés de pouce. Alors maintenant, ils ont compris et coupent la main comme ils sont sûrs d'avoir la puce. Pour les gens qui n'ont plus de mains, on met la puce sur le coude. Mais va-t-il y avoir des voleurs de bras ? La pauvreté est toujours aussi grande dans le monde et surtout en France, où officiellement il n'y a plus de pauvres. Les pauvres qui n'existent plus officiellement et qui n'ont plus rien, même pas de carte ou de puce, donc ils ne peuvent rien acheter, deviennent une société, une masse de plus en plus grande. Cela commence à inquiéter les autorités, le gouvernement, car ils se disent que plus il y a de gens qui sont hors du système, plus il y a des gens qui ne peuvent contrôler, parce que inexistants, inclassables. On ne sait même pas combien ils sont, où ils sont. Ils peuvent être un danger pour la société, s'emparer du pouvoir à cause du nombre qui grandit de plus en plus. Que faire ? Laisser les gens à l'abandon, sans contrôle ni aide. Ils peuvent amener en masse et tout détruire. On ne sait même pas combien ils sont. Il faut toujours savoir où sont et ce que font les gens, même les plus démunis. C'est très dangereux de ne rien savoir d'une catégorie de la population, une grave erreur. Les pauvres, les vagabonds, les hors-la-loi, les malades, les fous doivent être enfermés. On ne doit jamais laisser les gens vagabonder au hasard dans le pays. L'enfermement est la solution à tout. L'on décrète, c'est que chaque fois que l'on rencontre une personne qui vagabonde ou qui est malade, etc., elle doit être obligatoirement enfermée dans les prisons, que l'on dit des foyers, qui s'appelaient avant des hospices, et qui sont en réalité des prisons. Ces foyers où l'on mélange tous les déchets de la population ensemble, les vagabonds, voleurs et même malades sans identité, fous aussi, ces foyers sont pour les empêcher d'aller n'importe où et de savoir où ils sont. Le foyer n'a pas pour but de soigner, aider ou loger, mais entorser et savoir où sont les gens pour les surveiller, savoir où ils sont plutôt. Le foyer n'a pas pour but de régler les problèmes de la pauvreté, mais de régler le problème de l'information, de l'encerclement. Chaque ville a des foyers construits par francs blancs, des espèces de prisons avec barreaux en pleine campagne, gardés par des gardes que l'on dit animateurs ou assistants sociaux, etc. Ces maisons sont entourés de murs et de barbelés avec des caméras. Les fenêtres ont des barreaux. Il y a une cellule pour chaque personne. Petite pièce, nue, à la chaux, lit de camp, table de nuit, armoire, une petite table, un petit coin toilette avec WC. Fenêtre, barreaux, petite lampe au plafond, mur à la chaux, sol béton brut. Les portes ne sont jamais fermées à clé. Il y a des réfectoires, une infirmerie, des ateliers pour fabriquer des cartes de vœux, des jouets en peluche et de petits meubles. Les gens peuvent sortir dans le parc, mais ne pas sortir du parc. Normalement, ils restent 6 mois. Au bout de 6 mois, ils meurent de mort, disons naturelle, voulue par la société. Crise cardiaque, alcoolique, on les fait boire beaucoup. Empoisonnement alimentaire, on leur fait des expériences sur eux, etc., etc. Ce qui fait que tous les 6 mois, on change de pensionnaire. Des fois, on les trouve pendus dans leurs cellules, etc., etc. On fait de plus en plus de centres foyers pour les démunis, comme l'on dit. L'on ramasse de plus en plus, la nuit, la pluie sillonne les villes et les embarquent dans les camions. La journée, l'on sillonne la campagne. La population a reçu l'ordre de ne pas les aider, sous peine d'amende. Doit prévenir la police quand un SDF est vu. Est vu par exemple dans les caves, etc., etc. Bien entendu, des hommes en noir font toujours des tueries la nuit pour en éliminer quelques-uns. Voilà le plan social, sans compter celui pour les vieux et les enfants. Certains animaux qui prolifèrent d'une façon trop abondante à cause qu'ils sont protégés, comme les lions, les loups de mer, les loups, certaines espèces d'oiseaux, tous ces animaux qui prolifèrent trop, on les stérilise pour éviter qu'ils se reproduisent trop. Les fusils leur lancent des piqûres pour les endormir et on les stérilise. Et des zones spécialisées pour ça. Ces hommes-là sillonnent le monde. Le Milnu a préparé une liste d'animaux à stériliser. Bien entendu, on doit laisser un pourcentage pour la reproduction. Ces choses se font aussi pour les animaux domestiques des villes. Des villes et des campagnes, dans certaines villes, les animaux sont interdits. Les chats, les chiens, les pigeons. Certains animaux, comme les rats, souris, serpents, vipères, pour des raisons de santé, de sécurité, sont détruits. Les rats, souris, chats, chiens prolifèrent dans les villes et sont devenus à demi sauvages. Parce qu'abandonnés, et comme il y a beaucoup de ruines, le détritus dans les toits de moins en moins, ça attire les animaux. L'on essaye, c'est de faire vivre les pigeons des villes qui s'enlisent beaucoup à aller dans une forêt. On les attrape, stérilise, on leur coupe les ailes. Nous vous avons présenté dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre, la troisième époque de Violence et Crépuscule, l'élu, production, plus en scène. Julien Jean-Pierre, enregistrement CVRP. Musique originale de l'élu Lionel Morzetti.